Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Bienvenue, si vous nous rejoignez, notre page santé du mercredi avec le professeur Boyan Christophorov, Sud Radio, service compris, spécial hypertension. C'est comme ça qu'on va présenter les choses. Professeur, bonjour.
Bonjour, Véronique.
Vous n'êtes pas tendu, vous avez une douce voix, mais extrêmement ferme pour répondre aux auditeurs de Sud Radio. On vous retrouve régulièrement dans notre belle émission. Vous êtes ancien chef interniste à l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes gastro-entérologue. L'hypertension n'a pas de secret pour vous, hein, bien entendu. Alors moi, j'ai été surprise parce que je n'ai pas connaissance de personnes hypertendues dans mon entourage, mais il y a quand même 12 millions de Français qui sont hypertendus et il y en a 7 millions qui s'ignorent. Tout d'abord, qu'est-ce que l'hypertension ?
L'hypertension, c'est l'augmentation de la pression artérielle. C'est un jeu de mots un peu douteux. C'est pas une tension. Une tension, c'est un élastique comptant. C'est une pression. C'est la tuyauterie. Dans la tuyauterie de votre cuisine, il y a une pression qui est trop élevée. Alors, on devine facilement que cet excès de pression va abîmer les conduites.
Donc, pourquoi les cardiologues lancent-ils une opération, là, depuis hier, pour alerter sur l'hypertension ? Quel lien avec le cœur ?
Mais vous avez raison de faire allusion à cette campagne. L'hypertension artérielle, l'une des victimes de l'hypertension artérielle, ce n'est pas la seule, c'est le cœur. Le cœur doit faire face à un travail supérieur, il doit pomper plus fort. Et puis les artères qui irriguent le cœur, les artères coronaires, s'abîment avec l'hypertension artérielle. Donc il y a tout lieu pour un cardiologue d'obtenir une tension artérielle normale.
Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une histoire de tuyauterie, mais oui, ça impacte grandement le cœur. Je vous propose d'accueillir tout de suite Monique, qui a déjà fait le 0826-300-300 pour vous poser une question, professeur Boyan Christophorov. Bonjour Monique.
Oui, bonjour Véronique, bonjour professeur et bonjour aux auditeurs.
Bonjour,
et puis tous mes voeux pour la nouvelle année et surtout la santé. Hein.
Bien sûr, surtout la santé, vous avez raison.
Oh là là, oui. Alors moi je voulais poser une question au professeur concernant d'où vient l'hypertension, comment elle se déclenche. Moi je sais que ça s'est déclenché suite à, je faisais des nuits, mais très agitées hein, dans mon travail. Et 2 ans après, je commençais à avoir de l'hypertension, avoir mal à la tête, derrière la tête, tout ça. Et quand j'ai pris ma tension, je trouvais que j'avais quand même 14, 15. Et c'est là que je commençais à consulter.
Écoutez, 14, c'est pas une grande hypertension. D'où vient l'hypertension artérielle ? Eh bien, on ne le sait pas. Pour la grande majorité des hypertensions artérielles, on appelle ça pompeusement l'hypertension artérielle essentielle. Essentielle, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. Il y a bien entendu une cause, il n'y a pas d'effet sans cause, et un jour on la connaîtra. Mais pour l'instant, on ne connaît pas la cause profonde. En revanche, on connaît les mécanismes qui conduisent à cette hypertension et donc on peut la maîtriser.
Mmh. Mais pour répondre à la question de Monique, est-ce qu'il y a un facteur déclenchant ? Est-ce que le stress ? Est-ce que trop de travail ?
Non. On confond toujours, vous voyez, ce jeu de mots entre tension et pression. Et puis, tous les jours on mange, on va dire qu'on est hypertendu parce qu'on a mangé. On a un événement dans la vie, on va lui attribuer l'hypertension artérielle, mais non, ce n'est pas ça.
Mais il y a des facteurs qui favorisent l'hypertension tout de même ?
Ah, bien entendu, il y a des facteurs très nombreux, des facteurs ethniques, par exemple les Africains sont beaucoup plus exposés à l'hypertension. Il y a des facteurs diététiques, c'est la consommation de sel. Plus on a un régime salé, plus l'hypertension est fréquente. Il peut y avoir quelquefois des aspects familiaux. Il y a de très nombreux aspects et quand on fait la liste, elle est très longue et chaque cause contribue pour une petite part.
Mmh. Mais quand vous dites des aspects familiaux, il peut y avoir un terrain héréditaire pour l'hypertension ?
Oui, il y a des éléments dans ce sens, mais c'est pas l'aspect le plus important.
Et quand vous dites qu'un jour on saura d'où vient l'hypertension, il y a des recherches qui sont faites en ce moment,
sans
évidemment,
arrêt,
j'imagine.
Sans arrêt, c'est un des domaines les plus explorés. Alors on sait une fois que l'hypertension est déclarée, on sait combien elle marche. Elle passe par les reins, elle passe par les glandes surrénales. Et donc, il y a là un certain nombre de maillons sur lesquels on peut agir. Mais l'origine, on ne la connaît pas encore.
Monique, vous êtes bien prise en charge au niveau de l'hypertension ? Vous prenez
oui,
des médicaments ?
Oui, je prends, je prends l'Ercan 10. Mais j'ai quand même des fois 15-16 ans. Hein. Quand je suis très énervée, j'ai 16 quand même, hein, le soir.
Attention, Monique. L'hypertension artérielle, ça veut dire la pression artérielle lorsque vous êtes couché le matin, bien au calme, bien au chaud. Sinon, si vous coincez le doigt dans la porte, vous allez avoir la tension artérielle qui monte à 25. Ça ne veut pas dire que vous êtes une hypertendue. Certains efforts font monter la tension artérielle. L'activité sexuelle la fait monter, mais ça n'est pas dangereux. C'est un événement normal. Ce qui compte, c'est l'hypertension permanente, celle qui arrive au repos.
Alors, peut-on prendre sa tension soi-même, professeur, pour savoir si on est hypertendu ?
Non seulement qu'on peut le faire, mais il est conseillé de le faire, car vous savez, il y a l'effet de la blouse blanche du cabinet du médecin. On est un peu stressé, ça fait monter la pression artérielle. Donc, il faut avoir un appareil. Il faut prendre un appareil qui prend la tension au bras, pas au poignet. Et donc, il faut prendre tranquillement sa tension artérielle le matin, quand on est bien tranquille, bien au chaud. Maintenant, il ne faut pas la prendre toutes les 5 minutes. Il y a des malheureux qui deviennent, alors ils ont...
Il y a des hypochondriacs qui se prennent la tension toutes les 5 minutes.
Nous sommes tous hypochondriacs.
Bon, Monique, merci pour votre question. J'espère que vous êtes rassurée par le professeur.
Oui, mais j'ai cet appareil. Moi, je ne prends pas au poignet. Hein. Ce n'est pas fiable. Hein. Moi, j'ai au bras, vous voyez. Donc, je prends toujours au bras. Voilà.
Oui, vous avez raison. C'est ce qu'il faut.
Oui, oui.
Donc,
voilà. Mon cardiologue, il m'a dit c'est très bien. Je lui ai montré l'appareil. Il m'a dit il est très bien, l'appareil.
Mais voilà. Oui.
Merci, professeur.
D'ailleurs, la sécurité sociale les rembourse.
Oui, les appareils pour s'en procurer, hein, il faut le demander à
chez le pharmacien.
Chez le pharmacien, ils sont
le
tous
médecin,
fiables.
La plupart, vous savez, il y a une concurrence et les pharmaciens n'aiment pas vendre des.
Oui, on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais.
Donc je ne ferai pas de pub.
Non, d'accord. Monique, continuez à nous écouter attentivement. Évidemment, l'émission n'est pas terminée. Professeur Boyan Christophorov, donc bon, on peut prendre sa tension, mais à qui conseillez-vous de prendre sa tension? Il y a 7 millions de Français qui ignorent qu'ils sont hypertendus.
Mais je crois qu'il faut le conseiller à tout le monde. D'ailleurs, on n'est pas obligé de la prendre soi-même. Ils peuvent aussi aller chez le pharmacien, chez le médecin. Mais en tout cas, à partir du milieu de la vie, de 35-40 ans, il est bon de temps en temps de prendre la tension. Vous savez d'ailleurs que tout examen médical se conclut par la prise de la tension artérielle et c'est une excellente chose.
D'accord. Mais comment fait-on pour... je suis en train de me mélanger les pinceaux. Pourtant, je ne suis pas hyper tendu, moi, hein,
non.
Professeur. Vous avez dit à partir de 35-45 ans, on a l'impression justement que c'est une maladie, pas si mal l'expression, hein, mais de vieux d'être hyper tendu. Or, ça approche à la quarantaine. Il y a plus de gens qui commencent à être hyper tendus à l'approche de la quarantaine. Et pourquoi alors dans ce cas-là?
Comme vous savez bien, je vous ai dit, on ne connaît pas la cause première de l'hypertension. On ne sait pas non plus pourquoi. Mais c'est un fait. C'est vrai aussi qu'avec l'âge, les artères durcissent, etc. Il y a des tas de facteurs. C'est à partir de la quarantaine, de la cinquantaine, mais même avant. Je vous dis, si vous examinez un adolescent, vous lui prenez la tension artérielle.
Alors, on va revenir au cas de l'adolescence, mais on est en surpoids, on est trop sédentaire, on fume. On est la personne qui typiquement doit faire attention à soi et doit prendre sa tension.
Tous ces facteurs que vous venez de nommer sont tout à fait opérants et donc augmentent le risque et nécessitent une vigilance accrue du patient, du médecin.
Est-ce qu'on ne doit pas avoir le déclic aussi si, comme Monique, on a mal à la tête, on a mal derrière la nuque? Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter pour savoir si on est hypertendu?
Les symptômes, bien sûr, il y a le mal de tête, mais il y a 36 autres raisons d'avoir mal à la tête. En réalité, il n'y a pas de symptômes spécifiques de l'hypertension artérielle dans ses formes ordinaires. Si vous avez une forme très sévère, vous aurez mal à la tête. Et c'est bien pour ça, c'est bien là la difficulté. C'est pour ça qu'on dit que l'hypertension artérielle est un tueur silencieux. Il faut mesurer.
C'est un tueur silencieux, c'est l'expression qu'on emploie pour parler de l'hypertension. Parce que finalement, on ne voit pas l'hypertension s'installer, et c'est quelques années plus tard que le médecin va nous dire avec une voix charmante, vous faites de l'hypertension.
Oui, s'il n'y a que vous faites de l'hypertension, ça va bien. Ce qui est embêtant, c'est s'il y a des complications de l'hypertension.
Et alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir avec l'hypertension?
Tout un tas. Au niveau du cerveau, les accidents vasculaires. Au niveau du cœur, la détérioration des coronaires, l'insuffisance cardiaque. Au niveau des reins, c'est très important, l'insuffisance rénale, car les reins participent à l'hypertension artérielle. Et puis, il y a des tas d'autres complications, par exemple des détériorations des vaisseaux, des anévrismes. Il y a des tas d'autres complications plus moins fréquentes.
On a intérêt à être très vigilant, donc. Hein. Oui. Oh là, oh là, quand on vous écoute. Marion, Marie a fait le 0826-300-300. Bienvenue sur Sud Radio, Marie.
Bonjour Véronique, bonjour Monsieur le Professeur, bonne année
bonjour
à tous.
Marie.
Et donc, bonne année bien sûr.
Voilà, moi j'ai 70 ans et mon hypertension est survenue, je dis bien survenue, après une phlébite et donc qui a eu des séquelles, c'est-à-dire sur la jambe droite j'ai eu fibrose de la saphène et de la fémorale quand même sur quelques centimètres. Et donc j'étais surveillée hein, et je n'avais pas de tension et c'est après, quand j'ai fait une hémorragie digestive sous Préviscan, que aux urgences on m'a découvert cette hypertension alors que j'avais vu le cardiologue 3 semaines avant, le médecin, et que je n'avais pas l'hypertension. Et donc là, c'est pour moi, c'est en relation avec ça, c'est pas possible autrement. Mais ça fait quand même plus de 1 an, je suis traitée avec l'irbesartan au minimum, soit on m'a dit 75 mg le matin. Et ce que je remarque à l'heure actuelle, j'ai oublié de dire à mon médecin traitant que je vois que de temps en temps, c'est que c'est mon entourage qui me l'a fait remarquer parce que moi, bon, j'y suis habituée. Ce sont ces crises d'essoufflement. Enfin, ces crises, c'est pas des crises. C'est ces essoufflements, bien sûr, pour moi, c'est parce que j'ai monté les escaliers, parce que j'ai fait ci, fait là, mais avant, je n'avais pas tout ça. Et en plus, je suis une personne sportive qui fait régulièrement beaucoup de marches, qui ne fume pas, qui ne boit pas, etc. Et donc, là, il y a ces essoufflements. Je me prends la tension assez régulièrement. J'avais eu des axes hypertensifs après des marches trop dures, avec des crampes terribles la nuit. J'ai eu ça. J'ai fait attention. Et j'ai eu des chutes de tension très très importantes par contre. J'ai eu 6-7. Donc c'était pas très bien. Et donc ce sont surtout, maintenant ça s'est stabilisé, mais ce sont ces essoufflements, cette fatigue que je n'avais jamais eue. Voilà.
Écoutez, Marie, quel conseil peut vous donner le professeur? Est-ce que vous avez une question précise par rapport à votre cas
oui,
que vous nous avez explicité?
Ce que je veux dire, qu'est-ce que peut signifier le fait que je m'essouffle aussi facilement? Voilà.
Alors écoutez Marie, vous avez dit beaucoup de choses. On ne peut pas détailler tout. Une phlébite ne donne pas d'hypertension artérielle. Ça a été l'occasion de la découverte. L'hémorragie digestive, ça a été une occasion aussi de voir une hypertension artérielle. Probablement, vous devez avoir une hypertension artérielle instable, variable, et à certains moments de la journée, la tension est haute, à d'autres moments non. C'est d'ailleurs pour ça qu'on enregistre en continu quelquefois la tension. Alors quant à l'essoufflement, ce n'est pas l'hypertension artérielle qui en est responsable. Il faut que vous en parliez avec votre médecin, éventuellement avec un cardiologue, parce qu'on peut être essoufflé parce que le cœur ne fonctionne pas bien, on peut être essoufflé parce que les poumons ne fonctionnent pas bien, on peut aussi être essoufflé parce qu'on fait des efforts qui sont hors de proportion avec les capacités, et si on se met à s'entraîner, eh bien on sera moins essoufflé. Vous voyez, c'est un problème complexe qui est difficile de résoudre comme ça.
Oui, là, dans le cas de Marie, on ne peut pas forcément mettre l'essoufflement sur le cas, sur le taux de l'hypertension. Donc Marie, vous allez voir votre médecin et vous vous faites bien suivre. On vous souhaite beaucoup de courage.
Merci beaucoup.
Oui, merci Marie pour votre question. On sent que vous avez bien rassuré Marie. Donc j'invite les auditeurs de Sud Radio à faire le 0826-300-300 pour être tout autant rassurés. Parce que moi, plus j'en apprends sur l'hypertension, moins je suis rassurée, professeur.
Oh non, Véronique.
On se retrouve dans un instant. Les questions des auditeurs dans Service Compris sur Sud Radio. 3 moyens évidemment pour être avec nous. Vous faites comme Marie, le 0826-300-300. La boîte mail contact@sudradio.fr et puis la page Facebook Sud Radio. Service compris.
Sud Radio, service compris.
Véronique Jacquier.
Beaucoup de questions sur l'hypertension pour le professeur Boyan Christophorov, professeur de médecine, gastro-entérologue, ancien chef de service interniste à l'hôpital Cochin, qui rassure ou qui alerte les auditeurs sur ce qu'est l'hypertension. Professeur, vous nous avez bien expliqué de quoi il s'agissait. On rappelle que 12 millions de Français sont concernés, c'est quand même pas rien. Un Français sur trois, c'est bien ça. Et que 7 millions de Français ignorent qu'ils sont hypertendus. Avant d'accueillir la question de Nicolas, le traitement, bien entendu, fondamental, parce que c'est un traitement à vie quand on est hypertendu.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui est souvent difficile à comprendre. D'abord, c'est une maladie dont on ne perçoit pas les nuisances. Et ensuite, on prend ses médicaments, on vérifie que la pression artérielle a baissé, on a tendance à négliger. Or, les traitements ont été beaucoup améliorés, ils sont très bien supportés, ils sont souvent réduits à un comprimé qui comporte 2 ou 3 produits, il suffit de les prendre 1 fois, 2 fois au maximum par jour. Donc c'est très simple.
C'est déjà pas mal effectivement qu'il y ait un traitement.
Ah bah, bien sûr.
C'est énorme. Hein.
Vous savez, ça a changé les maladies de la population. Quand j'étais étudiant, quand on entrait dans une salle de malade, la moitié des patients étaient hémiplégiques ou victimes d'accidents vasculaires. Maintenant, ça a infiniment... Et que c'est exceptionnel.
Oui, c'est vrai que ça devient rare.
Tout à fait.
On accueille Nicolas, qui a donc fait le 0826-300-300 pour être avec nous sur Sud Radio. Bienvenue Nicolas.
Oui, bonjour Véronique, bonjour professeur.
Bonjour.
Alors, j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir s'il y avait un régime alimentaire spécial pour atténuer l'hypertension.
Oui, il y a un régime. D'abord, il faut pas être obèse. L'obésité s'accompagne fréquemment d'hypertension, pas à tous les coups, mais fréquemment. Ensuite, on a remarqué que la teneur en sel du régime alimentaire favorisait la survenue de l'hypertension artérielle. Mais il faut dire que les chiffres qui sont proposés sont sévères. Parce que quand on vous dit qu'il ne faut pas dépasser 6 grammes de sel par jour, c'est très difficile compte tenu de tout ce qui contient du sel dans notre alimentation. Mais en tout cas, il ne faut certainement pas saler, il ne faut pas manger des cacahuètes salées, il faut autant qu'il est possible réduire le sel.
Est-ce qu'il y a d'autres dispositions alimentaires à
faire? Non, c'est
le sel, voilà. Hein.
Le réglisse aussi.
Mais le réglisse,
oui, oui. Le réglisse donne l'hypertension.
D'accord. Nicolas, vous êtes rassuré?
Oui, c'est bon.
Voilà, donc pas de régime spécifique, hein. Voilà,
non,
message à faire passer.
Régime raisonnable.
Rappelons, c'est quoi une bonne tension, professeur?
C'est moins de 14, de 140 mm pour la maxima et moins de 9, 90 mm pour la minima.
D'accord, donc pour rassurer les auditeurs de Sud Radio Service compris, si on a 11,7 de tension, 12, c'est bon?
Ah, c'est même mieux que bon.
Ah d'accord, bon. Alors on accueille Marie qui a fait le 0826-300-300 bien entendu.
Oui, bonjour à tous, bonne année.
Bonjour,
bonjour
bonne
Marie.
Année. Voilà, moi je téléphone, mais je suis âgée, 84 ans, et voilà, je souffre d'hypertension depuis une quinzaine d'années, mais en ce moment je ne suis pas bien, j'ai des vertiges et je tombe.
Ah, est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'hypertension,
médecin,
c'est ça?
Il m'a dit que ma tension était normale et que vraiment, il ne voyait pas d'où peuvent venir ces malaises. J'ai pris rendez-vous chez un cardiologue, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Par moments, j'ai ma tête en feu et puis je tombe.
Écoutez, c'est un problème complexe. C'est vrai que la tension artérielle peut être responsable de ce genre de malaise, surtout quand elle est basse, si on est trop traité. Et il faut mesurer la tension artérielle en position debout, quand on se lève.
Oui.
Mais c'est un problème complexe. Et vous avez tout à fait raison d'avoir consulté le cardiologue, parce qu'il y a plusieurs choses à chercher et lui saura exactement ce qu'il faut chercher.
Oui, là c'est difficile de donner à Marie une réponse...
Une constipation pernicieuse, permanente, peut entraîner ce genre de choses?
Absolument pas. Il n'y a pas de constipation pernicieuse. Il n'y a que l'inquiétude que les gens se font à l'idée de ne pas aller à la selle.
Mmh, voilà, et c'est un gastro-entérologue qui parle, évidemment,
oui,
Marie. Hein.
Oui.
Donc pas d'inquiétude, et pour vos vertiges, il y a sans doute de multiples raisons et de multiples causes à rechercher.
Oui, parce que je souffre énormément entre les omoplates, et puis c'est à ce moment-là que j'ai ces vertiges.
Oui.
Alors il suffit que je m'allonge pour que ça se calme.
Écoutez, vous suivez les conseils du professeur, vous allez voir votre médecin généraliste, et puis on accueille Armand. Oui, on vous souhaite une belle après-midi en tout cas, restez-nous fidèles. Armand est avec nous via le 0826 300 300. Armand, bonjour.
Bonsoir, oui, bonsoir. Bonjour Véronique, bonjour professeur.
Et voilà, bienvenue sur Sud Radio.
Je vous souhaite de meilleurs voeux de santé, surtout.
Eh
voilà,
oui.
Voilà mon problème. Je suis reconnu hypertendu dyslipémique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que vous avez le cholestérol et les triglycérides qui sont élevés. Ce n'est pas la cause de l'hypertension artérielle. C'est quelquefois une association dans la mesure où vous avez, êtes peut-être corpulent. Je ne connais pas votre poids.
Je fais 1,86, 96 kilos.
C'est quand même pas vraiment la maigreur. Je crois qu'il y a...
Vous portez bien, Armand, comme on dit.
Les deux choses...
Ça va. Je suis régional, ça va. Bon, ça va.
Les deux choses sont à séparer, à traiter séparément. Dyslipémie, d'accord, ça veut dire que vous avez trop de graisse dans le sang, et puis hypertension, il faut le traiter.
D'accord. Alors, moi, j'ai été hospitalisé le 7 et le 8 par le biais de mon médecin traitant et mon cas. Je suis suivi par un cardiologue parce qu'entre-temps, en 2008, j'ai fait un premier AVC, un deuxième AVC en 2012. Et là, on me reconnaît que j'ai une chute de tension le matin et une l'après-midi. Alors, en plus de ça, c'est que j'ai un petit problème important. J'ai des micro-malaises l'été, uniquement l'été. Alors, le cardiologue penserait que ça serait la carotide qui serait touchée suite à un claquage cervical. Est-ce que ça peut venir de là?
Écoutez, c'est un problème complexe. Il faut savoir comment sont vos carotides. Il faut faire un échodoppler des vaisseaux du cou. S'il y a des anomalies sur les carotides, il peut y avoir des traitements particuliers. Et puis, vous savez, il y a des hypertensions artérielles qui sont difficiles à équilibrer. Tantôt la tension est trop basse, tantôt elle est trop élevée, et c'est là le travail des cardiologues et des spécialistes de l'hypertension artérielle pour trouver une combinaison de médicaments qui s'adapte bien à votre cas.
Donc il faut que vous vous fassiez bien suivre, Armand. Alors, et vous suivez les conseils du professeur.
Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé.
Non, Armand, il y a beaucoup d'appels, donc on ne peut pas vous écouter plus longtemps. Vous avez déjà une petite consultation sur mesure, et je rappelle aux auditeurs d'ailleurs que c'est compliqué d'être dans le registre de la consultation. On est là pour vous informer sur l'hypertension, pour faire passer des messages, pour vous rassurer si besoin est. Mais malheureusement, on ne peut pas aller plus loin avec vous, Armand. Mais j'entends à votre voix quand même que vous vous portez bien, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. On accueille Didier. Bonjour Didier, sur Sud Radio, bienvenue bien entendu.
Oui, bonjour à vous et bonne année.
Bonjour. Bonne année. Et
je voulais demander au professeur si c'était normal, parce que j'ai des... Comment on appelle ça? J'ai la patate qui s'emballe souvent. Et ça fait très mal. La dernière fois que ça me l'a fait, je suis resté trois quarts d'heure par terre et je me mettais des grands coups de poing sur le cœur pour que ça s'arrête et...
Mais est-ce que vous faites de l'hypertension, Didier?
Pas tout tard, mais ça arrive.
Non, ce que vous décrivez, la patate, ça doit être votre cœur. Vous avez des battements de cœur rapides et désordonnés. Donc il faut que vous en parliez avec votre cardiologue. Il vous mettra sans doute un holter pour enregistrer de manière continue et essayer de savoir quel est le type de trouble du rythme qui se déclare. Et à ce moment-là, il y a des traitements efficace.
Oui, il ne faut pas mettre tout sur le dos d'une possible hypertension.
Non, pas du tout.
Voilà, j'ai fait peut-être peur aux auditeurs de Sud Radio en leur disant qu'il y avait 7 millions de personnes hypertendues qui s'ignoraient. Il ne faut peut-être pas insister là-dessus. Merci en tout cas Didier, et vous allez voir le cardiologue, c'est la meilleure des solutions. Professeur, il y a un sujet dont on n'a pas parlé qui est très important, c'est qu'il existe de l'hypertension chez les enfants et chez les adolescents. Est-ce que là, il y a un lien de cause à effet avec...
Ce n'est pas la même maladie. D'abord, ce sont des phénomènes qui sont rares, qui nécessitent des explorations particulières, des glandes, des reins, et qui sont l'apanage de médecins spécialisés et dans l'hypertension artérielle et bien sûr dans les soins aux enfants. Ce sont des pédiatres.
Mais quand un enfant fait de l'hypertension, est-ce que c'est grave en soi du coup,
ça peut être embêtant, et c'est pour ça qu'il faut que les investigations soient complètes pour avoir un traitement efficace.
Dernière question, est-ce qu'il y a un risque médicamenteux quand on quand on fait de l'hypertension et qu'on prend un traitement?
Il n'y a pas de traitement qui n'ait pas d'effet indésirable. Mais les médicaments qui sont utilisés ont été choisis après de nombreuses vérifications et comparaisons, et on peut dire que les effets indésirables des traitements actuels sont très très faible. Très
d'accord,
faible.
Donc il n'y a pas à s'inquiéter si on prend un traitement à vie, hein, parce que ce n'est pas anodin, évidemment.
Au contraire, c'est une garantie, c'est une protection, c'est un label de longévité que l'on prend.
Merci beaucoup, professeur Boyan Christophorov, d'être venu nous parler de l'hypertension. J'ai appris beaucoup de choses, évidemment, en vous écoutant, mais dernière question, quand on a de l'hypertension, qui est le meilleur spécialiste pour nous suivre? Ça paraît bête comme question comme ça, mais il n'y a pas que le généraliste et le cardiologue, il y a qui?
Pour les hypertensions artérielles courantes, le généraliste est parfaitement compétent. Lorsque c'est un peu plus difficile, le cardiologue est l'homme qu'il faut, et puis il y a des cas d'hypertension difficile, de traitement mal supporté, etc. Il y a de véritables spécialistes de l'hypertension artérielle, il y a des centres hospitaliers spécialisés dans l'hypertension artérielle et c'est à eux qu'il faut s'adresser.